Bien, tout d'abord, je tiens évidemment à remercier chaleureusement Agnès Sandras et toute l'organisation du colloque de m'avoir si gentiment invité à parler des bibliothèques populaires belges et à m'avoir d'ailleurs poussé à dépasser le 19e siècle qui était ma période de prédilection et d'avoir poussé jusqu'à un historique de la lecture publique en Belgique jusqu'à nos jours. Ce ne sera pas l'objet de ma contribution aujourd'hui, mais si vous voulez un aperçu global du développement de la lecture publique en Belgique au 19e ou 20e siècle, je vous renvoie à la magnifique publication des actes du colloque. Je vais pendant quelques minutes situer un peu le contexte du développement des bibliothèques populaire en Belgique pour montrer un petit peu pourquoi il est intéressant de souligner le caractère laïque du réseau bruxellois. Je vais parler de ce concept de pilarisation en quelques mots parce que je pense qu'il est moins familier dans le contexte français. Ensuite, nous évoquerons les origines et le développement du réseau des bibliothèques bruxelloises qui sont donc des bibliothèques populaires communales. Et enfin, nous jetterons un œil, ce sera un sondage très superficiel, sur les collections pour un petit peu relever les indices de leur caractère laïque. Bien, nous passons maintenant au contexte finalement dans lequel ont évolué les bibliothèques populaires bruxelloises et belges en général. C'est le contexte d'une société pilarisée. Alors, ce terme de pilarisation désigne en fait le compartimentage, si on peut dire, de la société en trois piliers ou ensembles culturels distincts qui se sont formés successivement au cours du 19e siècle, à commencer par le pilier catholique, suivi d'un pilier libéral et plus tard un pilier socialiste. Chacun de ces mondes politico-idéologiques ont en fait tenu à créer non seulement des partis relais sur le plan politique, parti catholique, parti libéral, et à partir des années 80, ouvrier belge, l'ancêtre de l'actuel parti socialiste. Chacun de ces mondes a non seulement créé son propre parti, mais aussi des écoles, des universités, des associations, des syndicats. Et ça va très loin, ça va jusqu'à des associations féminines, des mouvements de jeunesse, des mutuelles, des pharmacies. Bref, chacun de ces mondes, catholique, libéral, socialiste, pouvait évoluer du berceau à la tombe dans une sphère d'influence déterminée, était donc encadré d'une certaine manière, idéologiquement, culturellement, vraiment de la naissance à la mort, de cette façon. Et donc, c'est un contexte particulier, non seulement à Belgique, mais aussi à d'autres pays, je pense, notamment aux Pays-Bas. Alors, les clivages entre ces piliers, parce évidemment tout cela n'allait pas sans une rivalité très forte, comme vous l'imaginez, on peut dire qu'ils suivaient deux axes essentiellement. Tout d'abord, un axe philosophique, bien sûr, catholicisme contre laïcité, la laïcité étant défendue à la fois par les libéraux et plus tard par les socialistes, mais historiquement, jamais les libéraux et les socialistes n'ont réussi à former un front laïque commun, ce qui aurait été bien utile car, encore une fois, je le souligne, le pilier catholique était prédominant, extrêmement puissant et donc tant les libéraux que les socialistes ont eu beaucoup d'efforts à faire pour exister au sein d'un pays qui était largement gagné à la religion catholique. Un deuxième axe, mais on n'en parlera pas aujourd'hui, c'est l'axe politico-idéologique, évidemment socialisme contre capitalisme ou libéralisme économique. Je le mentionne pour mémoire. Donc une diversité culturelle quasi institutionnalisée, très structurée, qui a permis à la société belge d'évoluer non pas sur base de révolutions successives comme en France, mais sur base de compromis, le fameux compromis à la belge, ce qui ne veut pas dire que la société belge n'a pas connu de conflit. En effet, par exemple, sur la question scolaire a été un objet de conflit très dur. Il y a eu ce qu'on a appelé d'ailleurs une guerre scolaire en 1879. Les libéraux ont fait adopter une loi qu'on a appelée la loi de Malheur, c'est pour vous dire, dans le but de consolider un enseignement public, officiel, laïque, et de faire en sorte que le cours de religion catholique ne soit plus obligatoire, ce qui a provoqué évidemment la colère de l'Église et du Parti catholique. Et suite à cette loi de Malheur, d'ailleurs, le Parti catholique a remporté les élections suivantes en 1884 et a régné d'une façon quasi monopolistique, en tout cas jusqu'à la Première Guerre mondiale. Nous allons maintenant nous rendre à Bruxelles et parler donc de la ville de Bruxelles. Quand je parle de Bruxelles ici, il s'agit de Bruxelles au sens restreint, la commune, la municipalité de Bruxelles et non pas l'ensemble urbain qui est composé de 19 communes, dont celle de Bruxelles, et qu'on dénomme aussi Bruxelles d'une manière géographique et usuelle. Donc il s'agit bien de l'administration communale de Bruxelles. Alors Bruxelles a quasi toujours été un bastion du libéralisme. Bruxelles a eu une politique scolaire extrêmement poussée, politique scolaire et culturelle, notamment en créant un réseau d'écoles officielles laïques, écoles communales bien sûr, surtout très développées, tant sur le plan des jardins d'enfants que de l'école primaire, de l'enseignement secondaire. Et bien sûr, à côté de ce réseau, il y avait l'Université libre de Bruxelles, qui est aussi, comme l'a souligné M. Mollier, un bastion de la laïcité, de la libre pensée. Donc les deux ayant d'ailleurs des collaborations assez étroites. Alors dans ce contexte, il y a aussi un acteur très important qui va apparaître en 1864, c'est celui de la Ligue de l'enseignement, qui a été fondée en 1864 par un groupe de libéraux radicaux et petit cocorico, si je puis me permettre, c'est la Ligue belge de l'enseignement qui a inspiré Jean Massé pour former la Ligue de l'enseignement en France, mais les deux sont évidemment les mêmes idéaux, pratiquement les mêmes objectifs. La Ligue de l'enseignement, donc fer de lance évidemment des revendications en faveur de l'école publique laïque, est aussi très active dans le domaine de l'éducation populaire. C'est pour ainsi dire l'association qui a été la plus active pour ce qui est de promouvoir le mouvement des bibliothèques populaires en Belgique, en particulier au sud du pays, le nord étant déjà largement parcouru par des associations flamandes de même tendance que la Ligue de l'enseignement. Et donc là, il y a eu plutôt coopération avec ces associations flamandes. Et la Ligue de l'enseignement, on va le voir, a vraiment soutenu l'effort de la ville de Bruxelles dans le domaine des bibliothèques. On peut passer maintenant aux origines et au développement du réseau des bibliothèques bruxelloises. C'est en 1848 que Édouard Duc Pessiot, un philanthrope, un chantre du réformisme social, c'est d'ailleurs lui qui a élaboré toute une théorie dans l'aménagement des prisons avec cette fameuse disposition paroptique. Édouard Duc Pessiot donc va proposer, et c'est une première, c'est la première fois en Belgique que dans un conseil communal on propose de créer une bibliothèque populaire communale. Donc on est en 1848 et c'est évident que c'est un peu aussi une réponse aux menaces de désordre social qui se font jour suite à la révolution de 1848 en France et qui va s'étendre en Europe. En Belgique, elle sera vite étouffée dans l'œuf. L'expulsion en masse a commencé par Karl Marx lui-même qui résidait à Bruxelles à ce moment-là et qui était évidemment sur le premier de la liste des expulsés. Donc cette révolution n'a pas eu beaucoup d'effets finalement dans notre pays. Mais donc on a cette proposition qui malheureusement va, peut-être parce que la révolution, le soufflet est retombé en Belgique, cette proposition va rester inactive pendant 15 ans. Donc il y avait unanimité de la part du conseil communal, mais pour de sombres raisons budgétaires, ce n'est qu'en 1863 que la première bibliothèque populaire communale va être ouverte. Alors, la bibliothèque populaire communale de Bruxelles est installée à la fin de l'année 1862 et elle ouvre ses portes le 31 mai 1863. La bibliothèque populaire, en fait, elle a été installée dans un endroit provisoire pendant un premier temps et on a très peu, malheureusement, d'images de ces bibliothèques populaires bruxelloises, tout simplement par le fait qu'elles vont être installées dans des locaux d'écoles primaires. Bref, cette bibliothèque s'ouvre et les horaires ne sont pas particulièrement larges. C'est le dimanche de 9h30 à 13h, le mardi et le jeudi de 19h à 21h. On comprend qu'il y a une volonté d'adapter cet horaire aux horaires de travail de la classe ouvrière. Une salle de lecture est aménagée pour la consultation sur place, même si elle est très étriquée dans les premiers temps. Et le prêt à domicile est gratuit et ouvert à toute personne connue du bibliothécaire ou munie d'un certificat de résidence. Donc on voulait éviter que des gens qui viennent d'endroits difficiles à joindre puissent emporter des livres qu'on aurait évidemment du mal à récupérer. Alors le lien avec le monde laïque se manifeste, surtout à partir du moment où la Ligue de l'enseignement entre en jeu. En effet, le cercle local de la Ligue de l'enseignement, le cercle bruxellois donc, va très vite apporter une collaboration soutenue à cette bibliothèque. Par exemple, une première séance de lecture publique sera donnée par le président de la Ligue de l'enseignement, Jules Tarlier, en 1866. Et ce sera le début d'une série de lectures, de séances populaires qui seront données dans la bibliothèque et qui avaient pour but essentiellement de donner un petit peu une leçon de bibliothèque, donc expliquer pourquoi il est utile de venir à la bibliothèque, comment peut-on tirer le maximum de profit de ces lectures, etc. Un autre indice du caractère laïque de la bibliothèque populaire bruxelloise, c'est que le conseil communal, en 1866, va s'opposer à l'exécution d'une circulaire ministérielle qui concernait l'organisation des écoles d'adultes, donc en quelque sorte un type d'enseignement professionnel post-scolaire. Et cette circulaire proposait notamment de réorganiser les bibliothèques populaires existantes pour en faire des bibliothèques d'écoles d'adultes. Le gouvernement essayait par là d'associer les bibliothèques à ce réseau d'enseignement professionnel. Mais le problème, c'est que, du coup, les bibliothèques devaient se soumettre à inspection ecclésiastique, ce qui évidemment hérissait le conseil communal bruxellois et qui a donc fait barrage, donc ils ont carrément refusé d'appliquer la circulaire en question. Et à côté de ça, la Ligue des enseignements a évidemment fait campagne contre ce règlement. Alors voilà une autre grande figure, non seulement de l'histoire de Bruxelles, mais aussi de la Ligue de l'enseignement, c'est Charles Buls, qui est orfèvre de formation, c'est un artiste, et c'est un membre éminent du parti libéral qui sera d'abord échevin de l'instruction publique, puis bourgmestre de Bruxelles, fin des années 70, et jusqu'à 1899. C'est aussi un des fondateurs de la Ligue de l'enseignement qu'il préside en 1880-83 et puis de 1905 à 1914. Alors Charles Buls va réformer la bibliothèque bruxelloise, enfin la bibliothèque communale de Bruxelles, en décentralisant le service et en créant ainsi un réseau de 10 entités, 10 bibliothèques, qui sont disposés de manière à toucher de façon plus proche les classes populaires. Donc, elles sont vraiment placées dans les quartiers à forte densité ouvrière. Il faut savoir que Bruxelles, à l'époque, est une ville, cité industrielle importante, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Deux acteurs aussi liés à la Ligue de l'enseignement, qui étaient membres de la Ligue, c'est l'échevin de l'instruction publique Léon Lepage et le directeur général de l'instruction publique Alfred Mabi. Alors, tous deux, on le voit au travers des archives, sont extrêmement soucieux, non seulement bien sûr des écoles, ce qui était déjà un axe de travail important, mais ils sont très attachés au développement des bibliothèques populaires. Et un troisième acteur important, c'est le bibliothécaire en chef. En effet, chaque bibliothèque dispose bien sûr d'un bibliothécaire et souvent d'un aide bibliothécaire qui sont recrutés en fait dans le corps enseignant. Donc, ce sont des instituteurs, mais aussi des institutrices. Ils relèvent donc de la direction de l'école pour les questions disciplinaires, mais sur le plan de la gestion de la bibliothèque, ils sont sous la supervision de la bibliothécaire en chef, qui lui-même doit rendre compte au directeur général et à l'échevin. Le choix des livres, d'ailleurs, c'est intéressant de souligner. On veille à tenir compte des attentes des lecteurs, donc les lecteurs peuvent faire des suggestions dans l'achat d'ouvrages. Le premier filtre, bien sûr, dans ces demandes, c'est le bibliothécaire de chaque structure locale. Deuxième filtre, le bibliothécaire en chef, qui lui-même apporte ses propres suggestions. Et puis le directeur général et l'échevin ont aussi leur mot à dire, et en général ce sont eux qui ont évidemment le dernier mot pour ce qui est de faire des acquisitions et de choisir des ouvrages. Soit dit en passant, le bibliothécaire en chef, un certain Jules Sauer, employé communal, sans histoire, on connaît très peu de ce personnage, mais il a une très longue carrière, presque 40 ans, à ce poste de bibliothécaire en chef. Donc jusqu'en 1929, il a la main sur ses bibliothèques. Quand on lit ses nombreuses notes administratives, on voit tout de suite qu'on a affaire à quelqu'un qui ne cache pas ses convictions anticléricales, libre-penseuse et rationaliste. Un indice supplémentaire. Mais évidemment, est-ce que pour autant les bibliothèques étaient conçues comme des instruments de diffusion des idées laïques et libérales, à l'instar de la bibliothèque catholique pour le monde catholique? Pour le savoir, eh bien, c'est intéressant de jeter un œil sur le catalogue. Il y a eu des catalogues publiés. Trois catalogues sont publiés entre 1863 et 1874. C'est intéressant, c'est de voir que philologie et belles-lettres, dans la division à laquelle on va retrouver les romans, se trouvent en tête de classement. Il s'agit évidemment d'attirer les lecteurs. Alors, la division philosophie, religion, morale, éducation et instruction, on constate des auteurs qui sont manifestement proches de faire de l'ordre de la laïcité et du libéralisme. Par exemple, Benjamin Constant, de la religion considérée dans sa source, etc. Paul de Jouvencel, qui a été, en fait, c'est un ouvrage qui a été l'une des premières tentatives de vulgarisation globale des concepts scientifiques. Donc, Jules Simon, père fondateur de Libre Pensée en France, et on a beaucoup d'opuscules qui se retrouvent au catalogue. Lamennais, le livre du peuple, là, je ne vous le présente pas. Des ouvrages Marnix de Saint-Aldegonde, qui est un polémiste calviniste bruxellois du XVIe siècle, qui sont des pamphlets anticléricaux fameux, sont encore lus au XIXe siècle. Quelques auteurs d'ouvrages de fiction, d'ouvrages récréatifs, parmi les mieux représentés. Notez qu'Henri Conscience, par exemple, est un auteur flamand très important, anticlérical au départ, même s'il a mis beaucoup d'eau dans son vin pour ne pas perdre le marché, bien sûr, du lectorat catholique. Mais on a quelques auteurs laïcs ou même francs-maçons, comme par exemple Bouilly ou encore Adolphe Mathieu, Van Peen, qui est un auteur flamand, qui curieusement était le rédacteur d'un petit hebdomadaire à la fois anticlérical et antirépublicain, tous les goûts sont dans la nature, et qui s'est d'ailleurs fait des ennemis de tous les côtés.
C'est
Voilà.
sûr.
Certains se complaisent dans la provocation. Mais il est très connu en Flandre parce que c'est l'auteur du texte du Vlaamse Leeuw, qui est l'hymne nationaliste flamand. Donc, on lui a quand même tenu compte de cela. Voilà la dernière image, qui est symbolique, je pense. Bon, c'est un hommage à la Ligue de l'Enseignement, donc c'est pas lié spécifiquement aux bibliothécaires, aux bibliothèques de Bruxelles, mais c'est symbolique de l'esprit dans lequel ces bibliothèques ont été conçues et développées. C'est en fait un esprit qui visait à dispenser les lumières de la raison, de la libre pensée, du libre examen au sein de ces nouvelles générations de lecteurs issus des classes populaires et qui étaient fraîchement alphabétisés, et de maintenir en quelque sorte le fruit de l'enseignement primaire au sein de ces classes ouvrières en leur donnant bien sûr des lectures, vous voyez le petit Fanion de la gamine, pour ce qui est de lutter contre l'obscurantisme, de la superstition, du cléricalisme, et libérer en quelque sorte ces classes ouvrières de l'influence du pilier catholique.
Merci.